Omar est solaire, Omar est souriant. Omar a une joie de vivre très communicative. Il était important pour Omar de transmettre et de partager son expérience, de raconter comment on peut tout gérer et tout mélanger, que ce soit sa culture maghrébine, que ce soit sa culture religieuse musulmane, que ce soit aussi les injonctions de la société. Omar a une sexualité qui dit entre guillemets classique, et il a une vie de couple avec son conjoint. C'est chouette de pouvoir entendre un homme parler de sexe et d'amour d'une façon aussi libérée. Je vous laisse avec Omar. Bonne écoute. Salut Omar.
Salut.
Ça va?
Très bien.
Omar, tu as quel âge?
J'ai 26 ans.
26 ans. Omar, on a un petit peu échangé par mail cet été avant de trouver une date dans nos agendas respectifs. Mmh. Et ça y est, tu es là en face de moi. Détendu.
Je te sens cool.
Hein.
On essaye en tout cas.
Bon, très bien. Alors Omar, je vais te poser la première question que je pose à tout le monde. Mmh. Quel est ton tout premier souvenir qui est lié à la sexualité?
Donc mon tout premier souvenir au niveau de la sexualité, vraiment, sur le questionnement de la sexualité, sur vraiment la compréhension de, au-delà juste de deux parents qui sont ensemble et que voilà, y a des rapports, c'était en 2006-2005.
Donc il n'y a pas si longtemps.
Pas si longtemps.
Donc t'avais quoi? C'était il y a 10-12 ans.
12-13 ans. D'accord. À l'époque, ouais.
Ouais.
Et justement, on regardait avec ma mère, on adorait regarder les Desperate Housewives.
Ah oui.
Du coup, c'était oui, pour ne pas rentrer dans le cliché. Donc du coup, on adorait regarder. C'est vrai qu'il y avait un épisode où justement l'une des héroïnes, donc c'était Lynette, je me rappelle très bien, qui justement reprochait à son mari le fait que ça faisait 9 jours qu'elle n'avait pas fait l'amour. Et c'est quelque chose qui m'avait dépassé. Enfin, je comprenais pas. Et du coup, j'en avais un peu parlé avec ma mère. Je lui ai posé la question.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Est-ce que c'est grave? Et donc du coup, faut savoir que même si je viens d'un milieu maghrébin pour le coup, dans lequel forcément, au temps normal, la sexualité c'est quelque chose qui est très tabou, ce n'est pas le cas chez moi en tout cas.
Dans ta famille, on parle de sexualité?
On parle de sexualité pour deux raisons. Une, pour avertir par rapport au danger, ce que c'est que le viol, etc. Ça, c'était vraiment des notions que j'avais...
Quand tu parles du viol, tu parles du consentement ou tu parles vraiment de l'agression sexuelle?
De l'agression sexuelle.
D'accord.
C'était quelque chose que notre mère nous a toujours expliqué par peur que ça soit déformé par la bouche de quelqu'un d'autre. Donc elle a toujours voulu maîtriser l'information.
Le discours, ok.
Absolument. Donc ça, je savais ce que c'est qu'un viol à partir du CE2.
Donc c'est assez particulier parce que tu sais ce que c'est qu'un viol, mais tu connais pas les tenants et les aboutissants des relations sexuelles.
Absolument. Donc c'est D'accord. Là et surtout la gravité de se dire ça fait 9 jours qu'on n'a pas eu de rapport sexuel. Maintenant je sais que c'est très grave.
Ah, c'est très... Attention, les pauvres gens qui sont en train de compter sur leurs doigts. 1, 2, 3. Ok.
Mais à l'époque, donc vraiment, elle m'a parlé. Elle m'a dit, écoute, non, voilà, pas avec ton père.
Ah oui, elle a appris le sujet pour.
C'est ça. Elle a...
Et avant cet épisode de Desperate Housewives, t'as jamais eu de questions avec ton corps, avec t'as des frères et sœurs?
Oui, un grand frère pour le coup.
Et t'as jamais, donc tu t'es jamais posé de questions?
Non.
En cours d'école, t'as grandi en France?
Non, j'ai grandi au Maroc.
T'as grandi au Maroc. T'es venu faire tes études en France?
Exactement.
D'accord,
et
tu es resté.
À l'âge de 18 ans. Ouais.
Non, ok. Coup, et au Maroc, au collège, au lycée, à l'école
Alors, à ce moment-là, c'était vraiment la fin. C'était la sixième, si je me rappelle bien. Oui, c'était sixième du coup. Donc c'était vraiment fin primaire, début collège. Après, forcément en quatrième, comme j'étais dans un lycée français. Mm-hmm. Du coup, en quatrième, il y a toute la partie sur l'anatomie, apprend.
Et puis ta puberté à toi.
Absolument. À ce moment-là où j'ai vraiment commencé à mieux comprendre ces rapports-là, voilà, et à mieux imaginer tout ça.
D'accord. Et donc les questions, tu pouvais les poser à tes parents?
Oui.
Plutôt ta mère, plutôt ton père?
Les deux. Mon père, il est anti-HOMA, ce qui veut dire en gros la honte. Il déteste ce mot parce que pour lui, ça limite le savoir, ça limite le fait de comprendre. Donc du coup, ça, c'était des mots qu'on évitait. Et ce qui fait qu'il n'y avait pas de tabou, c'est-à-dire que si on avait un questionnement, que ce soit sur la sexualité ou sur quoi que ce soit, c'était toujours très très ouvert.
Donc des parents très open.
Dieu merci, oui.
Ouais. On en parlait un peu quand on a échangé, en plus des parents donc très open, mais aussi des parents qui t'ont élevé dans la culture musulmane.
Pas vraiment. Mon père, en fait, il est... Enfin, les deux sont musulmans, on va dire, par culture,
oui, d'une
certaine manière.
Oui, par culture, ok.
On peut dire ça comme ça. Mais voilà, mon père n'est pas du tout très pratiquant, qui est, au contraire, il est très très ouvert d'esprit, il mange du porc.
D'accord.
Vraiment.
Ah, oui,
ma mère, pour le coup, c'est vraiment celle qui ramène ce que j'appelle le traditionnellement moderne. Donc c'est vraiment celle qui nous a rappelé un peu notre identité marocaine.
D'accord, qui va vous rappeler aussi les fêtes importantes,
exactement,
les moments de célébration en famille.
Et voilà, et elle, pour le coup, elle est religieuse, pour le coup. Mais très, je veux dire, dans sa façon de s'habiller, etc., enfin, elle est très européanisée, mais il y a quand même ce côté religion qui est important,
oui,
pour elle.
Qui est important pour elle, plus voilà. De façon traditionnelle.
Traditionnelle, culturelle, familiale aussi.
D'accord. Moi, je comprends.
Voilà.
Donc, toi, t'as grandi avec cette culture donc très ouverte, ça, c'est une chance. Ouais. Mais avec, effectivement, les valeurs de ta maman qui te rappelaient aussi quand même tes origines, tes ancrages réels. Mm. Mais un papa qui, pour le coup, était vraiment OK d'ouvrir le dialogue.
Absolument.
Du coup, bon, je déflore un peu, mais tu es homosexuel.
Ouais.
C'est venu tout de suite dans ta famille ?
Alors, j'en ai parlé à mon père et à mon frère. Ma mère ne sait toujours pas aujourd'hui.
C'est étonnant parce que c'est souvent le contraire. Effectivement, on se confie plus à sa maman.
Oui, surtout qu'on est très proches, elle et moi. Donc c'est, je veux dire que avant de rencontrer donc Pierre, on va dire, c'est
ton compagnon,
exactement, mon concubin sur sur la paperasse. avant de le rencontrer, j'avais vraiment ce côté de. Je ne veux pas lui dire parce que même s'il y a une certaine ouverture sur ce que c'est que la sexualité, de là à ce qu'elle comprenne l'homosexualité comme voilà, une relation qui est naturelle, comme une relation qui n'est pas choisie.
Et qui est normale.
Et qui est normale, c'est très compliqué parce que ma mère, comme je disais, elle est traditionnellement moderne. Donc ça veut dire qu'il y a le côté famille, qu'est-ce qu'on va dire, le côté religieux. Le côté culturel, n'oublions pas qu'on est au Maroc, donc même la constitution, elle est religieuse, elle est coranique. Et du coup, je ne me voyais pas lui dire parce qu'il y avait ce côté un peu de... j'ai envie de la protéger parce que je me dis que peut-être qu'elle ne le comprendra pas parce qu'aussi elle est au Maroc tout le temps. Donc,
tu penses que ça lui ferait de la peine ?
Je pense un peu, mais je pense qu'elle finira par le comprendre. Même si en soi, c'est vraiment cette transition qui me fait un peu peur, parce que j'étais un peu ce genre d'enfant où, par exemple, quand elle me disait que j'allais sortir, elle me disait, écoute, je ne suis pas vraiment à l'aise, je ne sens pas vraiment cette sortie, je disais, ok, j'annule tout.
Ah oui.
Toujours été comme ça. Toujours été comme ça, à vouloir.
L'enfant qui se range au. D'accord, pas du tout rebelle.
Non, pas vraiment.
Ton frère l'était un peu ?
Non, pas du tout.
Ah oui, d'accord. Donc ils ont eu deux enfants.
On a été, on va dire assez correct. Non, il n'y a pas eu vraiment de rébellion.
Oui, plutôt docile.
Oui.
D'accord. Donc on a un peu raconté aujourd'hui ton identité, mais
ouais.
Donc du coup tu es au collège et donc tu apprends un peu comme tu dis, les cours, l'anatomie, etc.
Oui.
Tu commences à t'intéresser à autrui.
Ouais.
C'est plutôt les garçons que tu regardes.
Alors au début c'était les filles. Forcément, parce que c'est l'injonction sociale.
D'accord, donc forcément, tu t'obliges à regarder les filles.
C'est ça. Au début, c'était pas vraiment une obligation, mais c'était juste un peu ce côté de... Ben, c'est un peu le schéma à suivre, plutôt que de se sentir obligé. Et c'est à partir vraiment de la troisième que là, j'avais compris. J'étais sorti avec une fille qui était très jolie à l'époque, qu'elle est toujours d'ailleurs.
Et attention, tu en as problème.
Tu n'auras pas de prénom. Et non, et donc du coup, je sentais rien.
Et en troisième, qu'est-ce qui se passe ?
En troisième, il se passe qu'il y a Internet, il y a des forums, je m'inscris aussi dans un site d'adolescents gays, bisexuels
aussi. Mais tu sais que tu l'es à ce moment-là ?
Je ne le sais pas, mais je me pose la question. C'est-à-dire que je ne suis pas ce genre qui va un peu, soigner la face, essayer de se dire non, faut que je m'oblige. Je suis très intuitif comme garçon, donc quand je ressens les choses, j'aime bien y aller jusqu'au bout. Et justement, j'avais beaucoup de questionnements. Je me suis dit que dans un entourage marocain, c'était pas forcément c'est pas forcément ces adolescents-là, ces amis-là qui vont me porter cette réponse. Du coup, j'étais parti sur des forums et justement, je m'étais inscrit. On a commencé à échanger et de là, je commençais à comprendre
que c'est ça qui te plaisait.
C'est ça qui me plaisait. Je regardais des petits téléfilms et c'est vrai que j'aimais beaucoup le fait de voir deux garçons s'embrasser, etc. Donc à partir de là, je me suis dit, ok, je pense que je suis bisexuel, c'est ce qu'on se dit tous au début, on est en transition.
Pour essayer de pas trop le...
C'est ça, et c'est vraiment à partir du lycée, 17 ans, où clairement je me suis dit, voilà, c'est comme ça.
Et alors socialement, tu assumais d'être homosexuel au lycée ?
Non, pas vraiment, parce que la sexualité, je l'ai toujours vécue comme un détail. C'est-à-dire que pour moi, être gay, c'est pas... ma personne, déjà ne serait-ce que de dire je suis homosexuel, c'est me mettre dans
oui,
une case.
Je n'arrive pas en te disant je suis hétérosexuel.
Exactement.
C'est un peu
voilà.
bizarre.
Et c'est ce que je dis souvent à des copines ou à des collègues qui me disent, quand je leur dis voilà, je suis avec mon copain, ils me disent ah, mais t'es gay, ça se voit pas. Je dis mais c'est normal. Enfin, toi, autant qu'hétérosexuel, tu vas pas venir me dire bonjour, je suis hétérosexuel, j'aime la levrette. Enfin, c'est complètement un détail pour moi qui est.
La vie serait si drôle.
Non, mais complètement. Mais c'est tellement un détail pour moi. Et.
Mais c'est intéressant, ça ne te définit pas.
Non, pas du tout. C'est un détail, c'est une partie de moi,
oui,
ça mais
ça ne
fait pas de moi qui je suis.
Oui, surtout que ta sexualité, c'est de l'intime.
Absolument.
Enfin, là, on en parle au micro, mais en théorie, ça reste de l'intime.
Absolument.
J'entends. Donc, tu commences effectivement à te rendre compte que tu t'intéresses vraiment aux garçons.
Oui.
Comment tu concrétises ça, charnellement?
C'était l'été... Alors, on va parler comme ça. L'été 2010... J'avais 17 ans pour le coup,
d'accord.
cette époque-là. Et j'avais rencontré quelqu'un sur un site. À l'époque, je ne mettais pas Casablanca forcément parce que, on va dire juridiquement parlant, c'est compliqué d'être homosexuel. C'est pénal aussi au Maroc. Mmh. Du coup, j'avais mis que j'étais sur Paris à l'époque, donc j'ai changé, etc. Et il s'avère que cette personne-là vivait aussi au Maroc. Avant, il y avait pas. Je suis pas non plus si jeune que ça au point où il y avait les applications. C'était vraiment sur les
oui,
sites à ce moment-là.
Sites,
encore.
Oui,
hein. Donc voilà, donc on se parle, etc. Et on se voit. Et je me dis, c'est vraiment ma. Enfin, si je vais vraiment expérimenter ce que c'est maintenant. C'est-à-dire que je pense que si j'avais le choix, si j'étais en France, c'est pas forcément quelqu'un que j'aurais fréquenté. On va dire que c'était.
Un peu par dépit. Enfin, par.
Oui, par dépit de se dire.
Enfin, c'est un peu dur, mais en disant oui, c'est.
Tu dis qu'il est bien élevé, bien éduqué, il comprend un peu plus de là où tu viens, donc ce qui est aussi pas facile. Et donc, du coup, voilà, donc, premier rapport à ce moment-là.
Ah, premier rapport total.
Total.
Tout de suite.
Pas tout de suite.
Enfin,
mais
non,
mais
je veux dire, vous avez consommé avec ce garçon assez rapidement.
C'est ça, exactement. On s'est vu deux fois pour des verres, etc. Et ensuite, par la suite, on s'était vu chez lui, puisqu'il avait un appartement.
Il était un peu plus vieux que toi ?
D'un an, pour le coup.
Il était majeur.
C'est ça. Et lui, pour le coup, c'était vraiment l'été où moi, je passais en terminale et lui, il partait à l'étranger, justement.
Faire ses études ?
En France, pour le coup. Ouais.
Et alors, cette première fois ?
C'était vraiment la. Comment dire ? C'est des moments qu'on sacralise tellement.
Mm-hmm.
Qu'à ce moment-là, des fois, il y a cette petite déception de se dire d'accord.
c'est
et
ça.
Alors, ils sont où les étincelles, les petits papillons, etc. C'était normal, c'était lambda. Franchement, c'était lambda parce qu'il n'y avait pas non plus des sentiments derrière.
Lui avait l'expérience ?
Lui, il avait l'expérience parce qu'il était en couple d'ailleurs, chose que je ne savais pas
okay.
et que j'ai appris un an après.
D'accord.
Mais j'étais jamais lié à lui, je me suis jamais dit que j'étais amoureux ou quoi que ce soit. Franchement, je l'appréciais, mais j'étais assez, même si j'étais jeune, on va dire que j'étais assez conscient du fait que c'était pas vraiment de l'amour, c'était vraiment de l'expérience.
Et il t'a amené vers cette sexualité assez, en tout cas. De façon agréable pour toi, ça a été pas un traumatisme, ça a été un bon moment.
Oui.
Et le corps de l'homme alors, quand tu le vois tout nu, quand tu
le touches,
quand tu le touches, etc. Qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe que c'est étrange, de toucher un autre corps que le sien. Et puis, c'était encore une fois comme c'était pas forcément quelqu'un pour qui j'avais des sentiments.
Mm-hmm.
Vraiment le toucher était vraiment très mécanique. C'était pas. Il n'y avait pas de.
T'as eu du désir pour ce garçon ?
Un tout petit peu.
D'accord.
Vraiment un tout petit peu. C'était vraiment pour de l'expérience. Parce que je me suis dit, c'est vraiment la seule chance que je peux avoir à ce moment-là.
Je la prends.
Je la prends. J'y vais.
Ok. Donc, après, tu as ton bac. C'est l'année où tu as ton bac ?
C'est ça, exactement. Donc, un an après, ouais.
Et là, tu t'envoles.
À Lyon.
À Lyon. Tu fais tes études à Lyon.
Exact. Parce que pour moi, je voulais vraiment faire ça comme un voyage initiatique. C'est-à-dire vraiment partir de zéro, me faire de nouveaux amis, nouveaux repères. Pas que je me sentais pas bien là-bas, mais que c'était important pour moi de me voir autrement que juste celui que je suis censé être au regard de la société.
D'accord. Donc tu arrives à Lyon.
C'est ça.
Et alors ?
Et alors, là commencent des rencontres.
T'as un grand sourire.
Là commencent des rencontres parce que...
Donc tu télécharges des applis.
Encore une fois, c'est toujours sur le
site. Il n'y en avait pas encore des applis.
Non,
pas
à ma connaissance en
D'accord.
tout cas.
D'accord. Parce que j'ai l'impression que ça quand même, ça commence à avoir un peu de bouteille,
les 2011 applis. Quand même.
Je me demande s'il n'y en a pas des applis des 2011.
Moi, je ne me rappelle plus. Bon. En tout cas, pour moi, c'était vraiment
tu restes sur les sites.
Site, ouais, absolument. Ouais.
Ok.
Et donc, du coup, sur les sites web, bon, je rencontre des gens. Je n'étais pas très dans le côté vraiment consommation sexuelle. C'était vraiment rencontre. Étant donné que là, je me disais, franchement, j'ai un peu plus le choix. Je peux vraiment aller vers quelqu'un Surtout que j'aime bien toujours bien tout, comment dire, mettre un contexte, toujours et tout est lyrique, j'aime bien
D'accord.
tout ça.
T'es romantique.
C'est ça, un tout petit peu quand même. Et
Un tout petit peu?
un peu, on va dire.
D'accord,
Bon, un
ouais.
peu beaucoup, allez. Pour
Omar,
l'assumer.
je te sonde avec. Je sais que tu es romantique, ça se sent, ça se voit. Donc t'as besoin quand même
c'est
de
ça, un
qu'il se passe quelque
contexte,
chose, quoi.
absolument. J'ai vraiment besoin de ça, j'ai...
Tu te mets la pression quand tu rencontres même un date comme ça?
Alors, pas du tout.
D'accord.
Pas du tout. Moi, je suis pour le fait d'être vraiment qui on est dès le
Ah
début.
oui, bien sûr.
Parce que pour moi, c'est... Si aujourd'hui, je me donne un rôle, la personne avec qui je préfère que la personne ne m'apprécie pas pour qui je suis, plutôt pour quelque chose que je ne suis pas. Je sais que ça paraît très banal.
Non, mais c'est intéressant.
Mais non, j'annonce toujours la couleur sur le fait que ben j'aime pas faire le ménage, par exemple, ce genre de choses, que j'aime manger beaucoup de fast-food, enfin des trucs comme
Alors,
ça.
qui aime faire le ménage et qui... Bon, il y en a qui n'aiment pas trop le fast-food, mais bon, pas se mentir quand même. Non,
Donc
mais je
non, pas
comprends
de
ce que tu dis.
pression.
Je
Pas de
comprends ce que...
pression, vraiment, on annonce,
Mais tu
j'annonce la couleur.
contextualises, c'est-à-dire tu aimes aller boire un verre, tu aimes...
Exactement.
Voilà, qu'il y ait
Ouais.
une discussion, vous partagez
Absolument.
vos centres d'intérêt, etc.
Absolument.
J'entends.
C'est pour moi vraiment le côté, comment dire, être intime avec quelqu'un, c'est quand même lui donner une part de moi que je valorise énormément et que je respecte. Et
Merci,
j'ai...
maman.
Voilà. Voilà.
Elle t'a bien
Et
élevée.
c'est ça. Et donc du coup, c'est important pour moi que cette personne-là puisse être à la hauteur.
D'accord.
Je pense.
Tu as eu beaucoup de rencontres donc ces premières années?
Oui, mais sans forcément qu'il y ait des conclusions, que ce soit intime ou forcément que ce soit, qu'il y ait du sérieux. C'était vraiment du date. C'est vraiment à partir de quand j'avais 22 ans que j'ai eu ma première relation, donc quand je suis venu ici sur Paris. Et donc ça a été une relation de 3 ans.
Ah oui, donc une belle histoire.
Exactement, donc voilà, presque 3 ans. Donc très très belle histoire.
Donc avec un garçon que tu rencontres pareil sur les sites?
Alors justement, là je passe aux applications. Donc je rencontre ce garçon sur Tinder.
Tinder ou Grindr?
Non, Tinder. Moi, j'ai
Tinder.
jamais été Grindr, pour le coup.
D'accord. Pourquoi?
Parce que je suis dans ce côté de... comment dire, avoir un rapport de manière mécanique ou juste
Tu as
s'envoyer des
essayé ça
photos.
justement, le rapport très sexuel, basique
Non.
Non, ça te
Non.
plaît pas.
Et même dans une période de célibat, où j'ai vraiment essayé de me dire, OK, essaie de sortir de ta zone de confort, essaie peut-être de voir des... Voilà, d'avoir, comment dire, de dater des gens juste avec qui tu vas avoir purement que du sexe, ben je finis toujours par, on va dire, je me raconte ma vie, je me raconte la sienne, et on pourrait se retrouver à faire des restos, mais
Oui, ça bascule pas dans le...
oui, j'arrive pas à être juste un one shot comme ça. Je n'arrive pas.
Tu n'arrives pas parce que tu t'es, comme tu disais, tu te valorises. Et je dis pas que les gens qui font one shot ne se
Oui,
valorisent
bien
pas,
sûr, bien sûr.
mais tu arrives pas parce que tu te dis que c'est trop facile et que c'est te donner comme ça et que t'as pas envie d'être le mec d'un soir dont on va oublier le prénom, ou c'est parce que vraiment ça ne fonctionne pas avec ton désir.
Ça ne fonctionne pas parce que je pense que pour que je puisse apprécier sexuellement quelqu'un, il y a ce côté un peu de personnalité qui marche énormément.
D'accord, t'as besoin d'être
J'ai...
excité par la personnalité de la personne.
Exactement. Le
Enfin,
charisme, son intelligence, c'est
son humour,
son
etc.
histoire
Oui, son...
aussi.
Ok.
Et souvent, le one shot, on va se dire que ce genre de
T'as
choses,
pas trop le
ben,
temps, oui,
on n'a pas
effectivement.
trop le temps exactement.
Je comprends, non? Oui, ça s'entend et ça se comprend. Donc, tu multiplies effectivement les rencontres. Tu as cette rencontre donc à Paris sur cette application. Et donc, ce garçon?
C'est ça, donc ça dure 3 ans que j'ai rencontré sur Tinder.
Donc, ton
Et
premier amour?
alors à l'époque c'était
Tu as pris ma respiration.
non, parce que justement on évolue. Et justement au début pour moi c'était de l'amour parce que c'était quelque chose que j'avais, c'est clairement de l'affection que j'ai pour ce garçon que j'ai toujours d'ailleurs parce que c'est énorme. On a quand même partagé, on a grandi ensemble aussi d'une certaine manière. Je l'ai changé, il m'a changé aussi, donc forcément il y a toujours cette affection là. Mais c'est vrai que le grand amour avec un grand A, c'était pas encore ça. Je pensais que
D'accord.
c'était ça à l'époque, mais en tout
Bien
cas,
sûr,
ça
bah
l'est
après on
pas.
n'est qu'en comparaison, hein.
C'est ça. Et
D'accord.
non, et donc du coup, on se rencontre sur Tinder. Et Tinder, pourquoi? Parce que je m'étais inscrit, parce que je me suis dit, comme je sortais pas mal aussi, je regardais un peu, j'allais en boîte, etc. Bah, c'était pas forcément, en tout cas pour moi, hein, je ne parle que pour moi. Les gars que je voyais en boîte, ou bien qui s'intéressaient à moi ou autre, ou. C'était pas forcément ceux qui m'attiraient le plus ou avec qui je me voyais construire quelque chose ou quoi que ce soit.
T'as un type de garçon?
Oui, alors souvent très calme,
Très calme?
grand pour le coup,
Ok.
parce que je suis assez
Énergique.
Voilà. Énergique. Donc du coup, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'apaiser. Intelligent, pour moi, c'est important.
Mm-hmm.
Et même si je dis que la beauté, c'est quelque chose à laquelle je ne tiens pas beaucoup, finalement, je suis... Enfin, mais en tout cas, que ce soit mon copain actuel ou l'ancien, ça reste quand même des très beaux garçons, objectivement.
Après, tu es un très beau garçon aussi,
ah,
donc c'est bon. Mais alors, c'est intéressant parce que je t'ai demandé si tu avais un type de garçon, tu ne m'as donné que des caractéristiques émotionnelles.
Émotionnelles, oui.
Donc, physiquement, brun, blond, non, pas du tout.
Alors, par exemple, mon ex, il était, c'était un châtain aux yeux verts,
mm-hmm.
avec des taches de rousseur, donc qui faisait ma taille. Et
donc plutôt grand.
C'est ça. Et mon copain actuel, bah, il est très très grand pour le coup. On est sur du 1m92.
On est sur une grande personne.
Voilà, une grande personne. Qui est comme
c'est
assez,
une belle taille.
Voilà, assez costaud et typé breton. Du coup, vraiment les yeux très marrons.
Typé breton.
Voilà.
Des bretons, notez-vous. Ok. Oui, donc finalement, oui, peu importe la...
Vraiment, il n'y a pas de type. Moi, c'est vraiment une question de personnalité. Et le charme. La beauté, c'est pas, je sais que ça paraît très banal de dire ça, mais je ne suis, il peut y avoir des gens beaux mais pas franchement intéressants, alors que des gens charmants, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment des personnes avec qui tu te vois vieillir, avec qui tu te vois
carrément
sur... Voilà, bon, en tout cas, c'est le charme m'attire énormément.
D'accord. Donc tu as la relation pendant 3 ans avec ce premier garçon.
Oui.
Votre sexualité à ce moment-là, elle est comment?
Elle est très classique.
Alors, c'est quoi une sexualité classique?
Alors,
entre deux hommes?
C'est ça. Alors, une sexualité classique, c'est très, très exclusive. Je veux dire, aussi en termes de... Que ce soit de position ou autre, c'était vraiment, on va dire, la routine. C'est vraiment une sexualité vraiment très routine. Mais
alors, si on doit faire en tirer un fil, c'est un peu ce qu'on appelle les sexualités hétéronormées.
C'est ça, exactement. Et je pense qu'il y avait aussi un côté du... chacun avait une certaine étiquette de ce qui devrait être dans le couple.
Alors, c'est-à-dire, ça m'intéresse.
Alors, c'est-à-dire que souvent, tu auras une personne qui sera la personne qui est censée être le plus souvent passif et tu as la personne qui est souvent censée être le plus actif. Et je pense qu'inconsciemment, il y a ce côté de, un peu, on essaye de mettre un donneur et un receveur.
Mm-hmm.
Et on reproduit ce côté un peu de... de couple hétérosexuel un peu.
Oui, oui,
c'est... Si je peux dire ça comme ça.
Non, mais je comprends ce que tu essaies de dire. Oui, moi, effectivement, en multipliant les enregistrements avec des hommes homo ou bi, c'est vrai qu'on se rend compte que, en fait, il n'y a pas de normes dans les relations sexuelles entre hommes.
Et
tu peux être actif, passif, donneur, receveur, etc.
Exactement.
Mais c'est vrai que les jeunes gens qui... connaissent pas trop, on a un peu cette image figée de y a un actif et un passif.
Exact.
Et du coup l'actif va être le bonhomme et le passif va être un peu plus comme ça.
Moins imposant.
Et en fait pas du tout.
Non.
Parce que même dans les rapports hétéronormés, dès qu'on déconstruit un peu,
absolument.
Une nana peut être très dominante au lit et un mec un peu viril et tout ça peut être super soumis entre guillemets au lit. Donc c'est vrai que oui, c'est à nous de casser ces schémas.
Ouais.
Donc vous aviez un peu reproduit ce que vous pensiez être.
Absolument.
Le modèle.
Absolument. Donc on a pendant ce modèle-là et jusqu'au moment où on a décidé d'habiter ensemble et au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que voilà, à un moment donné, l'affection elle y était, mais il y avait plus d'amour selon moi,
mm-hmm.
et qu'il y avait ce côté de routine et que je ressentais un peu l'envie d'aller voir ailleurs. Clairement, je ne l'ai pas fait.
Tu regardais d'autres garçons?
Pas regarder, mais c'est juste qu'il y en avait certains qui pouvaient attirer mon attention. Je les voyais d'une autre manière. Ça pouvait être, par exemple, en soirée, etc. Chose qui ne m'est jamais arrivée auparavant. Parce que même si je suis en couple, je sors de mon côté. Mon copain aussi, mon ex à l'époque, sortait son côté aussi. Et ça ne dérange personne. Mais voilà, là, je commençais vraiment à sentir le côté de... je commence à me lasser. Ça commence à devenir une routine. Et
tu t'éclates plus, quoi.
Et je m'éclate plus. Et j'avais vraiment besoin de ce...
Bon, tu es tout jeune, toujours à 26 ans, mais à 22 ans, ouais, t'as envie de...
C'est ça. Okay. Là, j'avais 24 ans et demi.
Oui,
là.
C'était sur la fin de votre relation.
C'est ça, exactement. Et donc, du coup, au moment où on habite ensemble, et c'est là où je comprends tout de suite...
La routine tue.
Que... C'est ça. Et c'était vraiment au bout de 5 mois où on habitait ensemble.
Aïe.
Et pour moi, il était hors de question que, sous prétexte qu'on... pour de la logistique...
Oui, vous avez pris un appart ensemble.
À... Ouais. Exactement, qu'on se retrouve à vraiment... à être emprisonné de ça. Donc ça a été dur parce qu'il y avait quand même eu, le break-up qui a eu lieu. Et ensuite, il y a eu quand même 6 mois où on vivait toujours ensemble, où des fois il y avait ce côté où j'entendais des fois vraiment très triste qui pleurait de son côté, etc. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui était... C'était vraiment pas facile. Vraiment pas. Et donc, du coup, je m'étais dit, bon, je me remets pas en couple avant très longtemps.
Mais.
Et là, donc, du coup, j'ai rompu en septembre et en juillet, le 14 juillet.
Donc, d'accord, t'as quand même 7 mois et demi de célibat.
Et 7 mois et demi de célibat où, quand même, j'ai... les personnes que je considérais comme des. Comment dire ? Comme plan cul, on va dire ça, entre guillemets. Ben, finalement, ça s'est transformé avec des personnes, en tout cas une personne, j'ai en tête, que Pierre connaît. Pour le coup, qui vraiment ne voyait plus la relation telle que du cul. Et il me l'avait souvent dit, à quoi je disais souvent que ça ne m'intéressait pas.
Oui, toi, t'avais envie d'une relation...
assez honnête, assez claire, je voulais vraiment pas... Et surtout que je ne me projetais pas avec, pour la première fois. Et non, et donc du coup, il y avait vraiment cette découverte du corps, de d'autres gens, etc.
Mais t'as consommé beaucoup de garçons sur cette période de célibat ?
Pas tant que ça. Pas tant que ça. Enfin, pour moi, c'était 3, mais c'est parce que c'est énorme pour moi, déjà.
Quel sentimental.
C'est énorme. Mais je veux dire, c'est vraiment...
Non, mais c'est assez pour toi, en tout cas.
C'était assez pour moi. Et parce que souvent, je ressens pas l'envie d'aller jusqu'au bout, non plus.
Le flirt te suffit ?
Le flirt me suffit.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, les derniers hommes homosexuels et certains hétérosexuels que j'ai pu interviewer surprennent un peu avec le nombre de partenaires qu'ils ont.
Ouais.
Et je dis souvent, même si évidemment, j'ai pas fait d'études, mais les homosexuels multiplient beaucoup les partenaires. Et c'est intéressant de voir là un jeune homme qui n'a pas envie d'avoir centaines de mecs à son compteur et qui est... plutôt dans une sexualité mesurée, mesurable, etc. Donc c'est, je pense que ça va faire du bien à d'autres hommes qui sont homo ou bi, de se rendre compte que c'est pas parce que tu deviens un homo que t'es assoiffé de sexe et que tu vas avoir des tonnes et des tonnes de mecs. Absolument. Et non, tu peux ne pas avoir envie, et c'est très ok aussi.
Ouais.
Ok, donc là t'as tes 7 mois et demi de célibat dont tu profites un petit peu.
C'est ça.
Et le 14 juillet.
Et le 14 juillet, du coup, toujours Tinder.
Ok.
Toujours en compte Tinder parce que c'est quelqu'un que j'aurais pas pu rencontrer. C'est-à-dire que même si au niveau du boulot, on se rapproche quand même, mais aucune opportunité aurait pu faire que je le rencontre.
On ne sait pas, Omar. On
en
sait
tout
pas.
Cas,
en voilà. Tout cas, là, en l'occurrence, il était connecté. Tu étais connecté.
C'est ça. Et on s'est matché. Et il m'a écrit. Souvent, j'avais Souvent, ça, le problème de Tinder, c'est que tu matches énormément de gens pour finalement parler juste à 2 ou à 3, en tout cas, qui, au-delà de « salut, ça va ?». Et donc, du coup, on s'est parlé tout de suite. Il a attiré mon attention parce qu'il avait écrit un truc du style « voilà, si c'est juste pour être un autre match, un truc comme ça, du style « voilà, si c'est pour un autre match,
ouais, voilà, passe ton chemin ».
Voilà, je vais essayer d'être un peu… Voilà, il a essayé d'être un peu créatif, ce que j'ai beaucoup aimé. Et donc, du coup, on a commencé à parler. Et au bout de 3 heures, j'ai demandé à ce qu'on s'échange nos téléphones et qu'on s'appelle, pour le coup. Et
c'était la première fois que tu faisais ça ?
Oui.
D'accord, t'avais envie de parler avec lui ?
Oui, j'avais besoin de parler, j'avais besoin d'écouter sa voix. Parce que pour moi, c'est important.
Bah, c'est important.
Et au-delà d'une photo qu'on passe comme un magazine, comme une feuille de magazine, pour moi, c'était vraiment... important d'écouter sa voix.
Tu peux pas tricher, hein. Autant les photos, tu peux un peu. Exactement. Selon les angles, les lumières.
Voilà.
Mais la voix, c'est quand même assez. C'est important, oui.
Non, mais donc du coup, on s'appelle. Lui, il était très stressé parce qu'il se disait, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que par la suite, il m'a dit, c'est vraiment pas commun. Des gens qui demandent à se parler au téléphone comme ça. Je lui dis non, parce que c'était important pour moi de. Voilà, d'entendre le ton de ta voix, le son de ta voix aussi.
Les mots, etc.
Les mots. Oui. Connaître un peu plus sur toi aussi, parce que. Et bizarrement, encore une fois, j'étais vraiment pas dans cette optique. Je me donnais un an de célibat, on va dire, entre guillemets. Et j'étais pas non plus dans l'optique. Je me suis juste dit, voilà, c'est quelqu'un que je pourrais rencontrer, quelqu'un de sympa. Puisque même mes rencontres, c'est pas que pour du cul, c'était aussi peut-être potentiellement pourquoi pas en faire des amis par la suite.
D'accord.
Je suis vraiment dans
cette
optique.
Vous étiez open.
C'est ça, c'est exactement ce que j'avais dit au téléphone. Si on se plaît en vrai, ben tant mieux. Si on se plaît en vrai, tant mieux. Si on se plaît pas, ben toujours des amis, pourquoi pas. Ça. On s'enrichit toujours de...
T'avais réussi à te faire un cercle d'amis, toi, à Paris, depuis que t'es arrivé, oui, donc c'était...
Sans problème. C'est juste que je suis quelqu'un qui est super sociable et j'adore rencontrer de nouvelles personnes avec de nouvelles histoires.
Oui, donc,
et je m'enrichis.
Quel que soit le biais, c'était pourquoi
exactement.
Pas. Et donc, vous vous appelez.
C'est ça. Et donc, on s'appelle. Et une semaine après, j'étais parti dans le sud pour bronzer, tant mieux d'ailleurs.
T'es revenu au max.
Voilà, je suis revenu préparé. Et donc, du coup, voilà, et on se voit. On se donne rendez-vous. Je donne rendez-vous au McDo parce que j'avais
pris un bus. Oh non, Omar, la déception.
Comme quoi, c'est toujours bien d'annoncer la couleur dès le début. J'avais dit que ça allait être...
McDo, ok.
Je lui propose qu'on aille au McDo. Parce que j'avais pas du tout mangé, que j'avais pris un bus de Toulon jusqu'à Paris. Ça m'a pris 13 heures, donc c'était quelque chose.
Ah oui, effectivement.
Donc le temps que j'arrive, etc. Ce qui était surprenant pour lui, parce qu'il m'a dit « J'aurais jamais pensé que quelqu'un me donnerait rendez-vous au
McDo. » Il était vegan ou pas?
Bah justement, c'est... il est végétarien.
Ah ouais, il a pas dit. Pas
et
dit...
il est
ah
vegan oui. En ce moment.
Il a pas du tout aimé, je pense.
Ben, non, il y avait du choix. Donc, je commence à parler. Lui, il me dit, bon, par la suite, il m'a raconté. Donc, je suis arrivé en short, t-shirt, casquette à l'envers. Et donc, voilà, il me dit, je te vois. Et je me dis, oh là là.
C'est quoi ce mec?
Il a vraiment pas fait d'effort, quoi. Et donc, du coup, on s'assoit. Et au moment où j'enlève ma casquette, c'est à ce moment-là que lui, il m'a dit, voilà, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai senti quelque chose. Je me suis dit, il commence à m'intéresser.
Et toi, quand tu le vois?
J'aime beaucoup.
Il est très grand.
Très grand, déjà. En parlant des Fat House Lives, il m'a rappelé un peu Tom Scavo aussi.
Ah, d'accord.
Je me suis dit, c'est cool en plus.
Le repère.
Voilà, je me disais juste, j'espère qu'on n'aura pas de problème de... pas de problème de sexualité non plus. Et donc, du coup, vraiment, il me plaît tout de suite. On commence à parler. Et je sens un garçon qui s'est construit lui-même, qui a un vécu qui n'est pas facile. Et c'est vrai que... Moi, pour le coup, je viens d'un autre milieu où j'ai vraiment eu des parents qui ont toujours été là, d'un milieu familial qui est assez encadré.
Oui, assez privilégié.
Privilégié aussi,
d'une
certaine manière,
ouais.
Oui. Des parents qui ne se sont jamais engueulés devant moi, par exemple. Ce genre de choses vraiment qui...
T'as été protégé.
Voilà, j'étais vraiment protégé. J'étais vraiment dans une bulle, clairement. Et donc, du coup, lui, c'était pas non plus pas que ses parents se battent ou quoi que ce soit, mais bon, c'est juste qu'il vient d'un autre milieu où il est censé tout faire par lui-même. Et se construire lui-même. Et ça m'a beaucoup plu. Ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément chez les personnes qui sont...
Les gens qui ont un peu d'aspérité comme ça.
Exactement. Et puis, on a commencé à parler. Tout de suite, j'ai vu quelqu'un qui s'est construit lui-même. Et voilà, et ça, tout de suite. Et je lui avais dit, écoute, j'ai des amis qui ont pris une petite place sur les champs, du coup, enfin, plutôt champs de Mars, pour regarder les feux d'artifice. Et donc, du coup, je lui ai dit, si ça t'intéressait de venir... Il m'a dit oui.
On va aller voir le feu d'artifice
c'est
ensemble.
Ça. Et par la suite, il m'a raconté qu'il espérait que je puisse lui reproposer pour le coup, vraiment de lui dire, parce qu'il pensait que j'avais oublié.
Mm-hmm.
Et donc du coup, voilà, donc on est parti et on a vu le feu d'artifice ensemble. Et on ne s'est pas embrassé à ce moment-là. D'ailleurs.
Mais c'est romantique déjà. Hein.
Oui, et le thème, c'était l'amour en plus.
Ah, c'était l'amour.
C'était le thème de l'amour.
J'ai peur des feux d'artifice, hein. je les fuis, mais ok, je te crois.
Et donc du coup voilà, et comme c'est quelqu'un de timide d'une certaine manière, je me suis dit, bon, peut-être qu'il n'est pas intéressé. Je lui ai dit, bon, bah tant pis, c'est des choses qui arrivent.
Et toi, aussi, tu fais pas le premier pas?
Non, bizarrement, non, je sais pas pourquoi. Je le fais pas parce que j'ai ce côté un peu de. Peut-être que j'aime bien comment dire, j'aime bien que ce soit l'autre personne qui vient vers moi.
D'accord.
C'est un gros défaut d'ailleurs. Je pense qu'il y a un peu d'ego aussi dans l'histoire.
Oui, t'as peur du stop.
Vraiment, c'est plus du côté. Je préfère comment dire, je préfère que ce soit l'autre qui vienne vers moi, pas vraiment le fait d'avoir peur du rejet,
mm-hmm.
mais vraiment sur le côté de se faire désirer,
on va dire. D'accord.
Voilà, c'est le terme que je cherchais.
Ok, tu aimes te faire désirer,
c'est ça. Et même au boulot, hein.
Ah oui, d'accord. Le collègue de qualité,
c'est ça. Et donc du coup voilà, et après je lui ai dit, du coup on rentre, ou tu veux boire un verre, tu veux faire quoi? Il me dit, ah si allez, on va boire un verre, etc. Donc voilà, on part boire un verre. Et par la suite, lui, il habitait à l'époque pas sur Paris. Donc, il me dit, il n'y a plus d'RER. Je le regarde en me disant, d'accord, ok. Il me dit, mais j'ai une amie qui est sur Paris. Je commence à rigoler parce que je vois
le truc un peu, oui, c'est un peu gros.
Mais pour quelqu'un qui est un peu voilà, timide, un peu froid, je me suis dit, ok, donc c'est sa manière peut-être de me montrer de l'intérêt.
Mm-hmm.
Et donc, du coup, depuis, on ne s'est plus séparés. Voilà.
Wow.
On a fait la finale de la Coupe du Monde.
Mm-hmm.
Le lendemain, c'était le 15 juillet, du coup. Et puis, à partir de là, c'est bon. C'était...
Donc, vous êtes ensemble depuis?
Depuis, ouais.
Waouh! Vous avez fêté vos deux.
Ben là, on est sur. On s'approche des un an et demi.
Presque. Un an et demi, c'est ça. Juillet. Ah oui, c'est ça. Un an et demi, ouais. Waouh! Donc, jolie histoire.
C'est ça. Et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure où je pensais qu'avant c'était vraiment de l'amour. Ça, j'ai plus vécu maintenant. Parce que...
Avec Pierre, tu te rends compte que c'est très fort?
Ben oui, parce qu'avec Pierre, on est très fusionnel. On fait beaucoup de choses ensemble.
Mm-hmm.
Rares sont les fois où on est séparés.
Donc vous faites beaucoup de choses ensemble.
C'est ça, on fait beaucoup de choses ensemble et on voyage beaucoup ensemble aussi. Et donc du coup voilà, vraiment, et rien que le fait, là dernièrement je suis rentré voir mes parents du coup, pour 4 jours et j'avais l'impression que c'était une éternité.
Sans lui ?
Sans lui, c'est ça. Donc, et là, vraiment...
Ah, t'en parles avec les yeux qui brillent, en tout cas.
Ah, bah oui, bah, parce que c'est quand même une belle chose de rencontrer l'amour et de rencontrer quelqu'un aussi qui puisse te faire évoluer, te donner aussi le courage peut-être d'affronter certaines peurs, comme par exemple moi par rapport à ma mère. C'est quelque chose sur laquelle je travaille aussi.
Lui a fait son coming out.
Alors lui, il a fait son coming out quand on a été ensemble.
Ah oui. Il a le même âge que toi ?
Il a un an plus que moi. Il a 27 ans.
Oui, donc vous avez le même âge à peu près. Et Pierre, pareil, a toujours été homo ?
Alors non. Pierre, il a eu des histoires avec des filles. Mmh. En fait, pareil, il n'est pas dans une... Des fois, il a déjà été attiré par des filles, et, voilà, attiré par des garçons. Mais en tout cas, je suis sa première relation en tant que garçon.
Et toi, tu as déjà essayé après avec les filles ? T'as-tu déjà posé des questions avec les filles ?
Oui. Après, ça me fait bizarre parce que ça, je me suis tellement jamais été dans un, comment dire, dans une attirance. Enfin, pour moi, les filles, ça a toujours été celle avec qui je m'entends le plus souvent, même maintenant, parce que c'est.
T'es un garçon à copine ?
Oui.
Mais.
Mais il y a ce côté quand même où. Pas non plus au point d'être vraiment que pour leur vie, pour leurs histoires et d'être là. D'accord. Tout le temps. C'est-à-dire que je préfère les filles parce que les filles, elles ont plus de conversations, parce que ben il y a plus d'intelligence émotionnelle aussi. Mmh. Elles sont plus vulnérables et c'est vraiment des choses qui m'attirent en tout cas. Et je pense que c'est ce côté, comme je suis très proche de ma mère, peut-être aussi. Peut-être que c'est pour cette raison-là qu'une femme, une fille, c'est.
Tu te confies plus, tu préfères la compagne des femmes.
Exactement, ouais.
D'accord.
Donc non, pour moi non.
Mais tu ne dois pas avoir une relation sexuelle avec une fille.
J'ai envie de dire pourquoi pas.
D'accord.
Si ça vient, ça viendra.
Mais c'est pas, t'as déjà eu des désirs pour des femmes ?
J'ai toujours trouvé les femmes belles. Et j'ai toujours aimé être entouré de belles femmes, c'est vrai. Non, vraiment pas eu d'un, vraiment pas été attiré.
D'accord. Donc si l'occasion un jour se présente dans un contexte particulier, pourquoi pas ?
Et si Pierre approuve ?
Voilà, et Pierre approuve. Et justement, j'allais te poser la question, c'est quoi votre sexualité avec Pierre aujourd'hui ?
Alors,
parce que tu m'as bien dit avant qu'on enregistre, Pierre est au courant, il est d'accord qu'on parle de notre sexualité. Ouais. Enfin, t'avais besoin du consentement de ton compagnon.
Bien sûr, parce que c'est une intimité qui est à deux aussi.
Bien sûr, ouais.
Donc, comment ça se passe ? On est un couple qui est exclusif, du coup. C'est très bien. Au tout début de la relation, j'avais fait part du fait que j'avais envie peut-être d'être dans un modèle de couple un peu plus libre, peut-être, un peu moins dans ces limites que j'ai eues auparavant.
Oui, parce que tu étais assez déçu de cette sexualité dans ta première histoire. Ouais.
Et avec Pierre, j'ai vraiment appris que l'ouverture, en fait, elle n'est pas juste sur le fait d'inviter l'étranger, mais c'est vraiment de tester beaucoup de choses déjà ensemble.
D'accord, donc là, vous êtes aujourd'hui, au bout d'un an et demi, donc c'est encore un jeune couple, vous testez beaucoup de choses ensemble.
Oui.
Et donc comme ça, vous construisez votre intimité solide, et peut-être qu'après, vous verrez sur le...
Absolument, absolument. On ne se presse pas.
D'accord.
On ne se presse pas, on aime passer... Là, on est encore sur le côté un peu où lui, tout comme moi, j'aurais un peu de mal de voir quelqu'un d'autre peut-être... Voilà, avoir un rapport tôt. Avec lui, c'est un peu trop tôt. En tout cas, je dis pas que ça n'arrivera pas, je dis pas non plus que ça arrivera, mais je dis juste que...
Déjà, le fait de l'imaginer, c'est déjà une grande ouverture d'esprit.
C'est un peu compliqué tout de suite, ouais.
D'accord.
Comme ça.
Et justement, est-ce qu'on parlait tout à l'heure des rôles un peu préétablis et hétéronormés avec Pierre, comment ça s'est passé ?
Ben justement, tout de suite, on voit le grand, qui plus est assez costaud, etc. On se dit tout de suite, ben voilà, il est censé être ça,
c'est
il est censé être ceci.
Et voilà.
Voilà, ben justement, nous, on n'est pas dans ça. On est vraiment dans de la... Notre sexualité, c'est vraiment... c'est sensualité, comment dire, c'est découverte de l'autre, c'est vraiment donner du plaisir à l'autre, se donner plaisir.
Et peu importe...
Exactement. Il n'y a pas de limite ou de rôle.
C'est en fonction de vos envies, exactement. De vos besoins, du moment, etc.
Absolument.
Et ça a été une révélation pour toi ?
C'était vraiment une révélation pour moi.
Mm-hmm.
Et ça ne serait pas arrivé sans lui, clairement.
D'accord. Et vous imaginez quoi justement par la suite dans votre sexualité ? Qu'est-ce qui, quand vous en discutez, qu'est-ce qui vous plairait ? Donc tu disais peut-être ouvrir le couple à l'autre, enfin à l'étranger comme tu disais. Donc,
ouais.
Donc à trois ça veut dire ou ça veut dire chacun va aller voir de son côté ?
Je pense que si on est amené à être dans ce contexte-là, comme on est deux personnes qui sont assez fusionnelles et on est dans le... comment dire ? On se satisfait aussi, on va dire, que ce soit sexuellement ou physiquement aussi. Ça serait plutôt peut-être un plan à trois avec quelqu'un qui s'invite parce que ça va créer de la complicité entre nous deux.
D'accord.
Dommage pour la personne qui passe un peu pour un jouet.
Bon, après, il y en a qui sont très conscients de venir dans un couple et de justement d'être le toy boy, ou etc. Il y en a qui sont satisfaits de ça. Hein.
Mais je ne pense pas que ça serait chacun de son côté, parce que là, ça serait vraiment essayer de, peut-être de chercher autre chose qu'on ne trouve pas. Alors que là, c'est vraiment quelque chose qu'on veut créer ensemble.
C'est intéressant d'avoir cette vision du couple libre. D'accord. Et après, dans toute, entre guillemets, l'offre qui existe dans les milieux gays, alors je ne sais pas, les soirées, les saunas, les partouzes, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui vous parle?
Alors, on a eu, toujours dans ce côté d'expérience, c'est vrai que cet été... Au moment où je t'avais contacté aussi.
Ah oui, vous étiez en vacances et vous écoutiez les podcasts sur...
On a fait vraiment...
un road trip, c'est ça ?
Un vrai road trip. On a fait presque 14 villes en 14 jours.
Waouh.
Donc c'était à base de camping. Moi, j'en ai jamais fait auparavant. Donc camping. Du coup, c'était super bien. J'ai adoré. Okay.
Et le sexe en pleine nature aussi ?
Alors, oui. Donc ça commence par... On a vraiment envie de faire une expérience de... Le naturisme, c'est quelque chose que j'ai jamais fait.
Mmh.
Et qui m'a toujours intéressé, et il était très ouvert à cette idée-là. Et c'est encore une fois, c'est pas le fait de regarder d'autres gens qui va déterminer ta sexualité ou autre, c'est vraiment ce que tu vas ressentir.
Mmh.
Et non, très très à l'aise. Et donc, du coup, justement, je trouvais.
Vous aviez envie de naturer ça ?
Parce qu'on avait envie, déjà parce qu'il faisait très chaud et que je me disais, ça serait bien peut-être un jour d'essayer de ne pas avoir une marque. Et non, vraiment, c'est une manière aussi d'accepter son corps et aussi. Pour être quelqu'un qui, mine de rien, même si des fois je me dis non, je m'en fous du regard des autres, le regard des autres m'intéresse quand même. Et c'est vrai. Et c'est quelque chose que j'essaye de...
C'est pas bien ?
Sur lequel j'essaie de travailler. C'est pas bien parce que, pour moi, j'ai l'impression que tu donnes accès à ce que l'autre puisse t'atteindre avec une réflexion ou autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un a certains goûts ou quoi que ce soit, ou bien pense d'une certaine manière et qu'il me le dit... je vais pas dire que je vais mal le vivre, mais je ne veux pas laisser place, donner pouvoir à l'autre personne de pouvoir m'atteindre.
Mais tu comprends qu'on ne peut pas plaire à tout le monde.
Ah mais ça c'est sûr.
Tu vois, tu es très beau aux yeux de Pierre et pour un autre homme tu seras moins son type de mec.
Absolument.
Tu vois.
C'est pas vraiment dans ça, c'est vraiment dans le fait d'être validé par tout le monde, et ça c'est quelque chose qu'on t'apprend quand même dans la culture d'où je viens, où le regard de l'autre est très important. D'ailleurs l'une des problématiques aussi de pourquoi on le dit pas assez souvent, notre sexualité ou autre.
Le jugement.
C'est le jugement, exactement. C'est vraiment le jugement. Et là, c'était vraiment une manière de dire, ok, on est nu, clairement. Et ce que les autres peuvent regarder ou peuvent dire ou peuvent penser, ça m'est égal.
Donc vous êtes mis à poil sur votre plage naturiste.
C'est ça.
C'était une plage familiale ou c'était une plage orientée ?
Alors, au début, c'était une plage familiale.
Donc là,
exactement. Donc là, c'était vraiment bien, etc. Super. Et ensuite, on s'était dit, on allait vers plus orienté. Donc c'était, j'ai toujours entendu parler du Cap d'Agde.
Bien sûr, la baie des cochons et tout ça.
C'est exactement ça.
Bien sûr.
Et j'ai des amis aussi qui ont déjà tenté, etc. Mais pour moi, l'expérience et le vécu, c'est très important pour moi. Et Pierre aussi, pour le coup. Et justement, on s'était dit, on va le faire. On va voir ce que c'est finalement, parce qu'on entend toujours parler, toujours sous un ton dramatique.
Il y a un truc un peu fantasmant autour de ça. Ouais.
Donc on y va, le matin, ça se passe. Enfin, on va dire la matinée, on est sur la partie vraiment familiale.
J'ai écouté un podcast qui était très intéressant, qui s'appelle Les lieux du sexe, et qui est justement mettant en lumière ces lieux un peu secrets, un peu fantasmants du sexe. Et la journaliste fait un sujet sur le Cap d'Agde. Et elle explique que la baie des cochons, c'est genre collé à une plage familiale.
Oui.
Et genre, c'est vraiment choquant quoi.
C'est
parce qu'il y a les enfants qui jouent d'un côté.
Et les adultes qui jouent de l'autre.
Ils jouent à d'autres choses, avec d'autres types de jouets. Et c'est assez, choquant quoi.
Ah non, mais clairement. Et même, je veux dire, même sur le côté familial, nous, on était. On met nos petites serviettes, etc. On commence à bronzer. Et là, on voit clairement qu'il y a une famille, mais de la grand-mère, la mère et. Trois filles jeunes, je pense qu'on avait la plus jeune devait avoir 16 ans, et il y avait un voyeur à côté qui a limite suivi la fille jusqu'à l'eau.
Oh
quoi.
Là là. C'est glauque ça.
C'est vraiment pas du naturisme, c'est vraiment de.
Oui, là c'est un peu limite. Ouais, c'est limite. Ouais.
Et donc du coup, on se dit, allez, on tente la baie des cochons. On va
donc
voir
on décale la serviette de 3 mètres.
Donc du coup, même pas on décale la serviette, et de là on commence vraiment à voir le. C'est comme une sorte d'oignon où on enlève une des couches.
D'accord.
Et plus on se rapproche, plus ça commence à faire pleurer. C'est clairement le cas.
D'accord.
Et donc du coup là, on commence à rentrer vraiment dans la zone, vraiment sexuelle. Et c'est assez gênant.
Toi, ça t'a mis mal à l'aise.
On était stressé.
Ah oui.
Ah oui, mais moi j'étais stressé. Je sortais de ma zone de confort. Je sortais de mon Maroc avec ma bulle ou ce genre de choses, ça n'existe pas. Enfin,
ah oui,
je suis pas non plus une prude ou quoi que ce soit, mais c'est quand même.
T'étais pas prêt.
J'étais pas prêt pour cette vision et conception du sexe.
C'est de l'orgie.
Et encore une fois, c'est pas quelque chose que je condamne.
Oui, tu dénonces pas, oui.
Quelque chose à laquelle je n'adhère pas.
Et donc tu n'adhères pas à quoi ? Qu'est-ce que tu as vu ?
Ben du coup on a vu vraiment des orgies, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une femme qui commence à se masturber, il y a vraiment autour, il y a 30 hommes qui sont autour, qui se masturbent autour, enfin le regard, c'est limite qui était assez, on va dire surprenant, c'est que il y avait, en tout cas dans leur regard, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment pas d'âme.
Ah oui.
C'était comme si.
C'est ça qui t'a choqué le plus ?
Un peu oui. Vraiment ce côté de... C'est-à-dire que même... J'ai l'impression que c'est tellement banalisé que limite, il n'y a même plus de plaisir. C'est juste, c'est mécanique.
Mm.
C'est la sensation que j'ai eue en tout cas. Donc, voilà. Et
vous continuez votre chemin.
On continue notre chemin. Et
ça
ne
vous a pas du tout émoustillé ?
Pas tant que ça, non. Après, ce qui était... On s'était documenté quand même. On était parti voir les dunes parce qu'ils ont dit que les dunes, c'est vraiment le lieu où tout se passe. On avait vraiment envie de voir... Vraiment de se dire, ok, on sort de notre zone de confort, on est nu, on n'a jamais été nu comme ça. Et donc du coup là, on commence vraiment, c'est encore un autre level.
Oh là là.
Et bizarrement, notre level. Et là, on décide nous d'être intimes de notre côté. Et en ce moment-là, il y a des gens qui sont venus. On se
vous regardez
dit... Ouais, après on a dit non, cherche un espace, il y a des gens qui nous suivaient.
Quand tu dis à notre level, c'était quoi dans les dunes ? Là, c'était vraiment les gens qui avaient des relations sexuelles.
Là, des relations sexuelles.
En couple ou à trois
Franchement, c'était des orgies. Tu savais pas si les gens ils étaient en couple. Tu savais pas si les gens se connaissaient auparavant.
ça baisait dans tous les coins.
Exactement.
Quoi. Dans toutes les dunes.
C'est ça. Et puis surtout, voilà, il y a des préservatifs de partout.
Ouais.
Mais
c'est pas très glamour. Hein.
Non. Non, mais je trouve. Enfin. Je ne sais pas comment dire ça, mais je ressens, on a ressenti un peu le côté que c'était plutôt du porno que du sexe. Je ne sais pas
D'accord.
comment dire, c'était vraiment un truc, comme si c'était scénarisé, comme si c'est censé être comme ça, comme si c'est censé, il doit y avoir un qui prend 3000 mecs autour.
Oui, tu n'as pas senti quelque chose de joli autour de ça.
Non,
ça
ni d'organique, ni rien. Ouais. Même en termes de... Il n'y a pas de connexion.
D'accord.
Après, c'est, encore une fois, c'est juste mon point de vue.
Bien sûr.
Et j'ai un peu de mal à concevoir.
Mais la journaliste qui a fait ce sujet parle un peu comme toi de cet endroit. D'accord. Une nana va dans l'eau, elle commence un peu à se toucher, les mecs la regardent, la suivent, etc. Enfin, un peu particulier, quoi. Il y a quelque chose de très désincarné, de très. C'est assez vulgaire, assez trash.
Ouais.
Après, les gens sont dans cette. Enfin, qui sont fidèles à cette plage, pour le coup,
ouais.
seulement, je pense, c'est ce que c'est leur recherche, tu vois.
Absolument.
Mais bon. D'accord, donc vous avez réussi à avoir un petit moment d'intimité.
C'est ça.
Malgré tout.
C'était très bien.
Ok. Malgré les douces perdues.
Voilà, malgré tout ça. En tout cas, c'était plus que l'acte, c'était vraiment le moment.
Vous l'avez fait, quoi.
C'est ça. Et c'était quelque chose qu'on avait envie. Donc, ça a été fait. Ça avait ce côté, nature, tous les deux. Vraiment loin de tout, loin de nos repères, loin de nos habitudes.
C'est ça.
En tout cas, ça reste une expérience. Au moins, on l'aura fait.
D'accord. Donc, ça, c'est un peu avec Pierre, votre chemin.
C'est ça. On va se dire que là, aujourd'hui, c'est là le plus gros...
Le truc un peu plus foufou.
Foufou, on va dire ça, entre guillemets, qu'on a pu faire jusqu'à présent.
D'accord. Ouais. Et tout à l'heure, je te parlais, par exemple, les saunas, le dépôt, ouais. etc. C'est des choses que vous avez un peu mis dans votre liste ou...
Alors, au retour, du coup, de cette expérience-là, on s'était dit... En tout cas, on s'était dit plus jamais, etc. Et je sais pas pourquoi je lui avais dit, c'est intéressant parce que je trouvais que voilà, on avait parlé, on avait vu ça, je lui avais dit est-ce que le sauna ça doit être pareil, tu penses ou pas ? Je lui ai dit j'imagine, etc. Je lui ai dit est-ce que ça t'intéresserait ? Il m'a dit franchement, là aujourd'hui.
Là tout de suite.
Voilà, c'est un peu compliqué. Je lui ai dit mais dans un futur lointain, est-ce que. j'aimerais bien voir.
De ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est toi qui as un peu plus force de proposition que lui sur l'exotisme de votre sexualité.
Alors, je suis force de proposition, pardon, mais lui, pour le coup, il est force d'exécution.
Ah d'accord.
C'est-à-dire que, ça, on va en parler, lui, ça va vraiment le sortir de sa zone de confort, mais une fois qu'il est là-bas,
c'est lui le leader.
C'est celui qui va l'idée et c'est celui qui va faire en sorte, par exemple, les dunes, il n'aurait pas été là, je ne l'aurais pas fait.
D'accord.
Clairement. Donc du D'accord. coup, c'est là où il y a ce côté un peu de...
Oui, voilà. Vous complétez bien du coup. On toi, t'as les idées, tu tises, tu racontes l'histoire et c'est lui qui dit, allez, hop, Omar, on y va.
C'est ça. Bah, c'est juste qu'on se dit, à un moment donné... Mais c'est pendant très longtemps, je me disais, j'ai vraiment pas envie de faire ça, pas envie de rentrer dans le cliché, surtout j'ai vraiment pas envie... j'ai pas forcément envie d'être ce... Parce que je suis gay, je suis censé faire des saunas, je suis censé aller dans des endroits de drague. Mais d'un autre côté, tu te dis, c'est juste de l'expérience humaine et juste de la curiosité. Après, y adhérer, être dans l'ambiance, c'est autre chose.
Bien sûr.
Mais rien que le fait de voir et de te dire, ok, c'est pas quelque chose qu'on me raconte, c'est pas... On m'a dit, c'est vraiment quelque chose que t'as vu.
Tu l'as senti, quoi, en tout cas. C'est ça. Ok. Non, mais ça, c'est chouette, je trouve, d'aller jusqu'au bout du truc et pas faire, comme tu dis, des choses qu'on est censé faire parce qu'on attend de moi, mais de vivre les choses. Est-ce que... Alors, du coup, on a parlé effectivement de votre sexualité maintenant avec Pierre. Oui. On va passer à la partie de demain.
Okay.
C'est quoi, alors, votre sexualité demain? C'est quoi, toi, ta sexualité, Omar, demain? T'as envie de quoi maintenant que... Parce qu'on a parlé effectivement de tes partenaires, comment tu arrives à ta sexualité, comment aujourd'hui vous arrivez à sortir un petit peu de votre zone de confort tout en gardant cette intimité qui vous est très chère et ce partage de sensualité, d'émotion, etc. Mais toi avec toi-même et toi avec Pierre, c'est quoi ton chemin aujourd'hui?
Alors, en termes de pratique, je vais dire au grand point d'interrogation. Parce que je trouve que c'est bien aussi de, d'être aussi dans l'intuition, aussi d'être dans le moment. Mais en termes de jeu ou de jouer, je pense que oui, on sera amené à toujours en plus découvrir de nouvelles sensations. On est vraiment dans ce côté de... on a envie de voir notre corps et de le sentir jusqu'au bout. Vraiment toutes les sensations que le corps peut procurer, qui plus est.
Donc là, on va essayer de faire ça, parce que comme t'es un garçon bien élevé, je vais t'amener ça de façon bien élevée. C'est-à-dire d'aller dans des pratiques un peu extrêmes, justement, pour sentir bien son corps.
Si, comment dire? Parce que là, tout de suite, c'est un peu dur de se projeter.
Oui, c'est dur de se projeter.
C'est dur de se projeter, surtout quand on est très satisfait.
Vous êtes très satisfait tous les deux.
Ouais, c'est vrai qu'on... Pour le coup, c'est un peu difficile de pouvoir se projeter si on est très satisfait. Et
Mais vous ne vous fermez pas en tout cas à ces éventualités?
Non, si à un moment donné, pour le couple, si on sent une routine et qu'on arrive à nos 5 ans, à nos 10 ans, à nos 30 ans, j'ai envie de dire, ce stade, on a envie de quelque chose de nouveau. Il faut vraiment que ça soit mais dans le consentement des deux. Vraiment qu'il y ait toujours ce côté, ce que je disais tout à l'heure, un peu de... J'arrive plus à parler.
Comme vous êtes en fusion?
De fusion, exactement.
Oui, c'est important de faire tout avec lui, en tout cas.
C'est ça.
J'ai l'impression. Et toi, il n'y a pas, effectivement, dans les pratiques, maintenant que tu as un peu ouvert, tu es sorti un petit peu de ta bulle où c'est tu étais protégé, quand tu vois le BDSM ou des pratiques où, effectivement, tu es vraiment très en phase avec ton corps et potentiellement le partenaire, ça, c'est des choses que tu as fermées, parce qu'elles sont quand même hyper antinomiques de l'éducation que tu as pu avoir. Enfin, c'est loin. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est des choses que tu pourrais intégrer?
Bon, absolument.
En tout cas, tu n'as pas rejeté?
Non. Non,
d'accord.
Enfin, je veux dire, si ça peut me faire sentir vivant, pourquoi pas,
okay.
À ce moment-là.
Okay. Y a aucune... enfin, non, pour toi, il n'y a pas de fermeture.
Non, parce que si je me ferme, dans ce cas-là, je perds l'opportunité de donner à mon corps une opportunité de découvrir quelque chose de nouveau. Et je trouve que, en tout cas, moi, de par ma personnalité, j'aime la nouveauté, j'aime toujours me sentir vivant, on va dire, d'une certaine manière. Et c'est important qu'on puisse découvrir, se challenger, sortir de sa zone de confort et... Je veux dire, même l'expérience que j'ai faite, j'étais pas vraiment pour, mais l'adrénaline...
T'es content de l'avoir fait.
Oui, parce qu'il y a vraiment l'émotion, l'adrénaline, tout ça, ce que ça te procure autour, c'est nouveau.
D'accord.
Ouais.
Je l'ai jamais fait, mais je vais te demander deux choses pour la fin. Déjà, le mot de la fin, mais aussi, comme on a parlé beaucoup de lui, qu'est-ce que t'aimerais dire à Pierre?
Que je l'aime, que c'est l'amant de ma vie, que c'est... non, mais c'est quelqu'un qui me soutient au quotidien, qui m'apporte énormément, des fois qui a tendance à s'oublier en voulant être là pour moi, vice versa aussi, et que sans lui, déjà j'aurais pas pu faire ce podcast, qui plus est avec mon prénom
Oui, on en a parlé. C'est, voilà. Tu dis qu'il y a des gens qui ne savent pas encore que tu es homosexuel, notamment ta mère.
Absolument.
Et donc, que... je ne sais pas si ta mère l'écoutera, mais en tout cas, tu as des amis, des gens, peut-être de la famille qui vont l'écouter. Donc, tu prends aussi ce risque.
Ce risque-là. Et surtout que, grâce à lui, je veux dire que... auparavant, je me disais peut-être ne pas en parler à ma mère. Ça devient de plus en plus quelque chose qui risque d'arriver bientôt. Très, très bientôt. Mm-hmm. Donc, voilà.
D'accord. Et le mot de la fin, globalement ?
Alors, globalement, le mot de la fin, ça serait de s'aimer et de ne pas avoir honte de s'aimer et de ne pas se limiter parce que la société ou les gens nous disent qu'on devrait être d'une certaine manière ou faire les choses d'une certaine façon. Et voilà. Et surtout d'écouter son cœur, je pense que c'est important. Parce que souvent, on essaie d'écouter la raison et la raison, c'est ce qui fait que souvent, il y a cette injonction sociale et qu'il n'y a rien de mieux que de faire les choses avec son cœur. Parce que quand on le fait avec son cœur, ben, il n'y a pas de regret à avoir.
En tout cas, ça te réussit bien parce que tu respires la joie de vivre.
Ben, merci.
Merci Omar.
Merci à toi.
Merci du fond du cœur à Omar pour ce témoignage. Merci aussi à Pierre de l'avoir accompagné dans cette démarche. Et merci à vous pour votre écoute, votre soutien et votre fidélité. N'hésitez pas à venir partager en DM, sur Instagram, Facebook, en commentaire, vos avis. C'est toujours très intéressant d'avoir vos retours. À bientôt.